Et France Inter, il est 13h. Le journal de Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, Brexit, peut-on sortir de l'impasse entre Londres et l'Union européenne? Boris Johnson chez Emmanuel Macron à l'Elysée, aucun des deux ne semble prêt au compromis. Un maire peut-il ignorer la santé de ses habitants? Question posée par le maire de Langouette, Ille-et-Vilaine. Il était au tribunal ce matin pour un arrêté anti-pesticides dans sa commune. Tribunal administratif, beaucoup de militants sont venus le soutenir.
Moi je suis venu soutenir un maire qui défend ses citoyens et qui prend position pour les lois du vivant et pas pour les lois économiques.
Un reportage Justine Leclerc tout à l'heure, des pesticides aux produits bio et l'accusation du FC que choisir la grande distribution réalise des marges abusives sur les fruits et légumes bio. Les pommes, les tomates, les pommes de terre. L'étude n'est pas sérieuse, répond la grande distribution. À quoi va ressembler la concertation citoyenne promise par le gouvernement sur la réforme des retraites? Nous essaierons d'y voir plus clair. Algérie, révolution bloquée. Il y a 6 mois, les premières manifestations. Aujourd'hui, l'armée garde le pouvoir. En football, la rentrée des joueuses de l'équipe de France, première sélection après le mondial. Et puis la météo. Bonjour Jean-Pierre Hameau. C'est plein soleil, sauf dans le sud-est.
Effectivement, elle prévoyait cet après-midi une forte activité orageuse sur le relief des Alpes du Sud, gagnant avant la fin de la journée la Côte d'Azur et les Bouches-du-Rhône. En revanche, le soleil va briller sans partage partout ailleurs. Et puis côté température, les maximales continuent de grimper. Elles seront généralement comprises entre 24 et 33 degrés. 33 degrés prévus à Nîmes.
A tout à l'heure pour d'autres détails, Jean-Pierre. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Dans le feuilleton du Brexit, ce qui était impensable il y a quelques mois encore est devenu le scénario central. Selon l'Élysée, un no deal, un Brexit dur, la Grande-Bretagne quitterait l'Union européenne sans le moindre accord, plongé dans l'inconnu pour les deux ex-partenaires. Peut-on encore éviter ce no deal avant le 31 octobre, date butoir? Chaque réunion au sommet aura désormais un caractère d'urgence. Le Premier ministre Boris Johnson est à l'Élysée en ce jeudi. Bonjour Élise Delève.
Bonjour.
Je ne sais pas s'il est déjà arrivé, en tout cas c'est imminent et l'ambiance risque d'être tendue, Élise.
Oui, parce que tout oppose Emmanuel Macron et Boris Johnson. Le style d'abord, le Premier ministre surnommé le Trump britannique est gaffeur, provocateur. Le président français lui pèse chaque mot et utilise un vocabulaire soutenu, parfois même suranné. Sur le fond, ensuite, on ne voit pas comment les deux hommes pourraient s'entendre. Boris Johnson souhaite négocier à nouveau, son homologue français refuse. La renégociation dans les termes proposés par les Britanniques n'est pas une option qui existe, a dit hier le chef de l'État lors d'une rencontre avec la presse. Et c'est surtout la question du backstop, ce filet de sécurité pour éviter le retour d'une frontière entre les deux Irlandes qui pose problème. Pour le Premier ministre britannique, il est antidémocratique. Pour Emmanuel Macron, c'est un élément indispensable, une police d'assurance. Le président français va demander à ces sujets des clarifications. Reste aussi la question de la facture, 44 millions d'euros. Le Britannique menace de ne rien payer si les conditions du divorce ne sont pas modifiées. Le Français répète que la facture doit être payée, même en cas de no deal.
Élise Delève en direct de l'Élysée, et toujours pas de tignasse blonde pour l'instant dans la cour de la présidence de la République. Les deux présidents doivent s'exprimer, président et premier ministre, doivent s'exprimer dans les minutes à venir. Si c'est avant la fin de ce journal, nous retournerons évidemment à l'Élysée. Hier, avant Paris, Boris Johnson était à Berlin. La chancelière Angela Merkel est un petit peu moins pessimiste qu'Emmanuel Macron à propos du Brexit et des négociations. Elle estime possible un accord avec la Grande-Bretagne dans les 30 jours. Après Boris Johnson, les dirigeants grecs et indiens seront reçus à l'Elysée. Puis demain, ce sera les premiers rendez-vous dans le cadre du G7 qui se tient à Biarritz ce week-end. Gros agenda international. Et pour ce G7, sont mobilisés 13 200 policiers et gendarmes. C'est un des chiffres clés de cette semaine. On parle de ce dispositif hors norme avec notre invité. Bonjour Yves Lefebvre.
Bonjour.
Secrétaire général du syndicat de police SGPFO. On en parle dans un tout petit instant d'abord, monsieur Lefebvre. Je voudrais dire un mot des déclarations d'Emmanuel Macron hier devant la presse. Il revenait sur la crise des gilets jaunes, les samedis de manifestation, les blessures qu'il qualifie d'inacceptables chez les policiers et les manifestants. Il dit qu'il faut repenser certaines méthodes de maintien de l'ordre. Comment interprétez-vous ces propos?
On est tout à fait favorable, nous, à repenser au maintien de l'ordre, à la méthodologie et surtout à la déclinaison des ordres. Vous savez, on a eu le 1er décembre, parce que perdons jamais de vue quand même que si aujourd'hui nous avons encore la chance d'être dans une démocratie et que nous avons encore les lettres de noblesse de notre République, c'est grâce à qui? Grâce aux policiers et aux gendarmes qui ont tenu notamment le 1er décembre et qui ont retenu ensuite à la mi-mars. À l'issue pour la décembre, on avait dit, nous, il faut tout repenser. Il faut repenser, réorganiser, parce que pourquoi? Parce que au niveau des décideurs, on était trop, je dirais, dans un système ultra technocratisé. Donc ça, il fallait à tout prix le changer. Donc moi, je suis pas défavorable à changer la méthode. Et puis, ce que je retiens aussi, surtout des propos du président de la République hier, c'est la prise en compte de la fatigue, de la, je dirais, du quasi burn-out dans lequel sont plongés les policiers aujourd'hui.
Donc globalement, ça, on va le détailler. Globalement, ces propos hier, blessures inacceptables, y compris chez les manifestants, vous l'interprétez plutôt comme un soutien, comme une prise de ouais, conscience des réalités de ces dernières semaines.
J'émets quand même un bémol sur les blessures inacceptables des manifestants, parce que, entendons-nous bien, si un manifestant pacifiste est blessé, c'est toujours très regrettable. Jusqu'à preuve du contraire, en mis quelques cas, ceux qui ont été blessés n'étaient pas des manifestants, étaient des black blocs ou des gilets jaunes ultra radicalisés, ce que moi j'appelle des black blocs par sympathie. Donc faisons la part des choses quand même en la matière, et bien évidemment ce que je retiens surtout là dans ces propos, c'est le fait du côté complètement inacceptable des blessures subies par les forces d'ordre. Mais là, pourquoi il y a eu tant de policiers blessés? Aussi par la faute des donneurs d'ordre. C'est-à-dire que les donneurs d'ordre, et en l'occurrence la préfecture de police de Paris, n'ont jamais été en capacité, jusqu'au 1er mai dernier, d'appréhender réellement un bon système, une bonne organisation du maintien d'ordre.
Le président qui se dit vigilant sur l'état de fatigue des policiers, policiers qui vont être fortement mis à contribution dans les jours à venir à Biarritz, 13 200 membres des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, c'est proportionné ou pas, selon vous, Yves Lefebvre?
J'espère que c'est proportionné. Vous savez, on ne pourrait pas faire mieux, hein. Parce que on a effectivement 13 200 policiers et gendarmes sur Biarritz, mais sans compter tous ceux qui sont aujourd'hui contraints d'assurer leur mission quotidienne de sécurité des biens et des personnes dans les commissariats ailleurs qu'à Biarritz. Donc, vous savez, c'est toute la police nationale aujourd'hui. Moi, je considère aujourd'hui que ce sont 100 000 policiers, gardiens de la paix et gradés, qui sont mobilisés pour le G7. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sur le G7 doivent être remplacés par d'autres sur leur service d'origine. Donc, proportionné, j'espère. On va voir ce que ça va donner. Hein,
votre crainte, quelle est-elle pour les jours à venir? Il y a déjà des appels à la désobéissance civile, à des manifestations sous cette forme-là. Oui. Que craignez-vous, vous, du point de vue de l'ordre public?
Je crains des affrontements violents. Manifestement, on parle de plus en plus de manifestations sur Bayonne samedi, où je crains. Là, on ne sera pas dans l'anti-G7. On sera contre l'anti-force de l'ordre pour pouvoir casser, blessés et même le pire, vouloir tuer du flic. C'est ce que je crains, que encore mes collègues sur le terrain, avec toute la lassitude, toute la fatigue, toute l'exaspération qui est la leur, devront encore tenir pour ne pas tomber, tout simplement.
La fatigue, la lassitude, l'exaspération, vous l'exprimerez demain dans un barbecue de la colère. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir répondu à nos questions, et je signale à propos des mesures avant ce G7 que l'aéroport de Biarritz s'est fermé dès ce soir. Il ne rouvrira aux voyageurs que mardi matin. Les gares SNCF de Bayonne et Hendaye seront fermées vendredi soir. Il sera difficile de circuler tout le week-end, y compris sur l'autoroute A63. Il incarne en cette fin d'été la lutte pour qu'on utilise moins de pesticides et avec plus de précautions. Le maire de Langouette passait au tribunal ce matin, tribunal administratif de Rennes, pour avoir pris un arrêté interdisant l'usage des pesticides à moins de 150 mètres des maisons dans sa commune d'Ille-et-Vilaine, 600 habitants. Une telle décision ne relève pas de sa compétence, estime l'État. Voilà pourquoi le maire était au tribunal. Les militants anti-pesticides, eux, le soutiennent pleinement. Il y avait une grosse ambiance au tribunal administratif ce matin, Justine Leclerc.
À son arrivée et après l'audience, le maire de Langouette est chaleureusement applaudi. Des grandes banderoles contre les pesticides ont été déployées autour du tribunal. Des citoyens de toute la Bretagne sont là.
Moi, je suis venue soutenir un maire qui défend ses citoyens et qui prend position pour les lois du vivant et pas pour les lois économiques.
Cette mamie a fait plus d'une heure de route.
Je dis merci à monsieur le maire, parce que c'est important.
Seulement une cinquantaine de personnes peuvent assister à l'audience. Face aux arguments très juridiques de la préfecture contre l'arrêté anti-pesticides, le maire explique qu'il a agi pour la santé de tous et pour faire évoluer l'agriculture. Daniel Cueff et son avocat sortent soulagés.
Franchement, être convoqué au tribunal administratif, c'est quand même sur un principe de précaution et de protection de la population, c'est quand même un peu gonflé de madame la préfète.
C'est la censure, moi je l'ai dit quand j'ai plaidé, il y a une volonté de censurer en disant c'est pas à vous de le faire, c'est à l'étage supérieur qu'on doit agir. En réalité, je pense que légalement, l'arrêté du maire, il pose aucune difficulté.
Le maire de Langouette a demandé au président du tribunal de ne pas casser son arrêté anti-pesticide qui va, d'après l'élu breton, dans le sens de l'histoire. Réponse de la justice la semaine prochaine.
En tout cas, cette affaire en atteste, la méfiance à l'égard des pesticides est de plus en plus forte, d'où l'engouement pour le bio. En 3 ans, les ventes de produits bio ont augmenté de 36% selon UFC Que Choisir. Alors les supermarchés profitent-ils de cet engouement pour réaliser des marges abusives sur le bio? C'est l'accusation de l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Elle a mené une étude mai 2018, mai 2019 sur les 24 fruits et légumes les plus consommés et elle arrive à cette conclusion. Les marges de la grande distribution sur le bio sont 75% plus importantes que sur les fruits et légumes dits conventionnels. Marge encore plus importante sur les pommes de terre, les tomates. Les pommes, par exemple, marge sur les produits traditionnels, 90 centimes le kilo. Sur les produits bio, on passe à 2,20 euros. Alors, à ces chiffres et à ces accusations, que répond la grande distribution? Écoutez Jacques Cressel, qui est le délégué général du commerce et de la grande distribution.
Cette étude n'est pas sérieuse. Il donne notamment des chiffres concernant les marges brutes, c'est-à-dire la différence entre un prix au producteur et un prix au consommateur. Or, ça ne tient absolument pas compte des intermédiaires, des coûts de distribution. Naturellement, les marges nettes, elles, à la fin, sont extrêmement faibles. Vous savez que dans la grande distribution, d'une manière générale, les marges sont entre 0 et 1%. Ce sont des études non scientifiques sur quelques magasins. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une étude générale qui est en cours aujourd'hui dans le cadre de l'Observatoire des prix et des marges du ministère d'Agriculture. Nous y travaillons naturellement et ceci permettra d'avoir les vrais chiffres. Mais quand on donne des éléments sur un légume comme le poireau qui doit représenter 0,01% des ventes et sur le poireau bio qui est encore plus infinitésimal, on voit bien que ceci ne correspond pas à une réalité économique.
Voilà pour la réponse, la lutte contre les pesticides, l'engouement pour le bio et le succès des écologistes aux dernières élections européennes. 13,5% des voix pour la liste de Yannick Jadot, troisième position. Il y a une certaine logique à tout cela. 3 mois plus tard, pour les écologistes, l'été est passé, c'est la rentrée à Toulouse. Et en interne, un mot d'ordre. Attention à ne pas prendre la grosse tête, le reproche en effet, parfois à Yannick Jadot. Alors dès l'ouverture des universités d'été des écolos à Toulouse, le patron du parti, David Cormand, sort son mantra « modestie ».
Ne laissons pas la tyrannie des égaux détruire le fruit de notre travail commun. Aucune personnalité ne peut réussir seule. Aucune étoile filante ne peut se prévaloir de notre succès commun pour écrire une trajectoire solitaire. L'histoire récente l'a montré. Cet ensemble que nous sommes une force qui compte.
Modestie, donc, est-ce que ça doit être le mot d'ordre chez les écolos? Qu'en pensent les militants? Réponse d'une des militantes rencontrée par notre envoyée spéciale Laurence Perron. Elle s'appelle Christine, elle est psychologue en Bretagne.
Moi, je pense que ça s'adresse à tout le monde. C'est toujours bien de se le rappeler à chacun. Que tout le monde a un égo. Je pense que c'est pas facile quand on est sous le feu des médias, de l'exaltation, d'avoir un peu leadership avec une équipe, etc. Donc, ça lui est peut-être adressé, mais fraternellement. Et je pense qu'il faut pas écarter la question de l'incarnation. Il faut des personnalités pour porter le projet. Mais ça fait partie de la culture écologiste, effectivement, de faire attention à ça.
Toulouse, ville de la rentrée d'une bonne partie de l'opposition, décidément, puisque c'est aussi là que la France insoumise conclut l'été en l'absence de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est une première. Pour le gouvernement, le gros sujet de la rentrée, c'est la réforme des retraites. Et parmi les questions qui inquiètent celle-ci, est-ce qu'il faudra pousser jusqu'à 64 ans pour toucher une retraite à taux plein? Hier, la ministre en charge du dossier, Agnès Buzyn, a promis une concertation citoyenne à partir de septembre. Bonjour Frédéric Seyss.
Bonjour.
Concertation, c'est-à-dire, est-ce qu'on en sait un peu plus?
Oui, Agnès Buzyn évoque une concertation citoyenne menée par Internet, en mairie et via les associations ou les syndicats, cela alors que 3 journées d'action sont déjà programmées en septembre contre la réforme des retraites. Dialogue et proximité, c'est le mot d'ordre. La crise des Gilets jaunes est bien sûr passée par là. Les réponses ne peuvent plus seulement venir d'en haut, a d'ailleurs dit hier soir Emmanuel Macron devant la presse présidentielle. Pour autant, les contours exacts de cette concertation reste encore flou. Qui sera consulté? Selon quel calendrier? Avec quelle restitution? Et surtout, quelle marge de discussion? Que reste-t-il à négocier? Alors même que le haut commissaire Jean-Paul Delevoye vient de passer 18 mois de consultation avec les organisations syndicales. Attention au détricotage, met en garde Frédéric Sève, secrétaire national à la CFDT en charge des retraites.
C'est aussi un chantier technique extrêmement complexe, si vous voulez. S'il faut à chaque nouvelle étape, il faut repartir de zéro, on n'y arrivera jamais.
Alors, on imagine imagine mal, c'est vrai, le gouvernement revenir sur les principes déjà acquis de la future réforme des retraites, basculement d'un système d'annuité à un système par points, création d'un âge pivot. Peut-être y a-t-il davantage matière à débat sur la pénibilité ou sur les petites retraites. Voilà pourquoi, en tout cas, la marge de manœuvre du gouvernement est ténue avec cette concertation. Écoutez sans détricoter, dialoguer sans oublier d'avancer.
Merci Frédéric Seyss. Dans l'actualité encore, enquête classée sans suite pour Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Il était visé par une enquête pour conflit d'intérêts éventuel entre ses anciens postes dans la fonction publique et ses liens familiaux avec l'armateur MSC, les chantiers navals.
France Inter, le journal de 13h.
C'était il y a 6 mois exactement, début d'une révolution en Algérie. Des milliers de personnes descendent dans la rue à Alger pour protester contre une nouvelle candidature du président absent et impotent Abdelaziz Bouteflika.
Franchement, personne ne pouvait prévoir une telle mobilisation. On savait que les Algériens ont reçu la candidature du président comme une violence. Et je pense que là, ils expriment cette colère. Mais tout se passe bien.
Voilà, petit extrait du reportage réalisé il y a 6 mois par Leïla Berato à Alger. Alors 6 mois après, où en est-on ? Eh bien, c'est le blocage. Du côté des acquis de cette révolution, les manifestants ont dépassé leur peur pour descendre dans la rue. Il n'y a pas eu d'effusion de violence. Le président a dû partir, ainsi que 2 premiers ministres, des généraux, des hommes d'affaires. Mais dans les faits, l'armée a gardé le pouvoir. L'homme fort du pays est le chef d'état-major, le général Salah. Il continue de proposer une élection présidentielle. Ce dont ne veulent pas les manifestants, ce qu'ils veulent, c'est un changement complet du système. Écoutez, Kader Abdelkader, il est spécialiste du Maghreb. Il est avec Nadine Epstein.
Tous ceux qui manifestent, les millions d'Algériens qui manifestent depuis 6 mois, considèrent que ce qui est prioritaire, c'est le départ des hommes qui incarnent ce système politique et non pas l'organisation d'une élection présidentielle. Donc c'est le blocage total parce que l'un et l'autre ne veulent pas la même chose. Il faut aujourd'hui que les militaires acceptent l'idée qu'ils ne pourront plus décider de tout, notamment des orientations politiques, diplomatiques, stratégiques, économiques, et que le rôle d'une armée populaire, c'est de défendre l'intégrité du territoire et non pas de participer au pillage, comme ça a été le cas depuis 1962, au pillage de l'économie nationale.
Chaque parti mise sur quoi ? Sur la lassitude de l'autre ?
Oui, exactement. Pour le moment, les choses se déroulent de manière pacifique, même si la répression est importante. Des centaines de personnes arrêtées, ça dit bien que ce régime n'est pas prêt à abandonner.
L'analyse de Kader Abdelkader avec Nadine Epstein. C'est bientôt la fin de l'été, mais c'est la saison des tulipes à Paris. Les tulipes de Jeff Koons, cadeau des Britanniques aux Parisiens après les attentats de 2015. La sculpture multicolore de 12 mètres va traverser la capitale en convoi très spécial et sera installée derrière le Petit Palais, dans le centre, près des Champs-Élysées, à partir de la nuit prochaine. La saga de ces tulipes de Jeff Koons, nous vous la racontons sur franceinter.fr. Un peu de littérature, les amateurs de polar suédois, 3-2-1 partez, c'est aujourd'hui que sort le tome 6 de la saga Millennium, La fille qui devait mourir. Un mois et demi après le mondial, disons frustrant, les joueuses de l'équipe de France de football font bientôt leur rentrée, c'est le 31 août face à l'Espagne. Comment repartir du bon pied après une Coupe du Monde qui s'est arrêtée dès les quarts de finale ? Quel changement ? Corinne Diacre a dévoilé la sélection ce matin.
Écoutez, l'objectif c'était de reprendre les 23 mondialistes. Je n'ai pas pu le faire d'une part parce que Elise Bussaglia met un terme à sa carrière internationale. Et concernant Pauline Perromanien, Eve Périssé et Maëva Clémaron, toutes les trois sont blessées. Donc je les ai remplacées par des jeunes joueuses. En fait, je voulais reprendre les 23 tout simplement parce que on a vécu une belle aventure. Alors il y a eu des déceptions, mais il y a eu de vrais bons moments partagés. Mais c'est surtout que j'ai rien à reprocher à personne. Donc à partir de là, et comme un de vos confrères l'a dit tout à l'heure, le championnat n'ayant pas repris, je voulais retrouver le groupe avec qui on a vécu une belle compétition.
À propos recueilli par Bruno Salomon, ce soir les joueurs de Strasbourg disputent le tour préliminaire de la Ligue Europa, la petite coupe d'Europe, c'est face à Francfort à 20h30. Comme promis, petit retour à l'Elysée, la rencontre Johnson-Macron, les deux sont en train de parler. Est-ce qu'une issue est possible ? Est-ce qu'on peut sortir de l'impasse dans le cadre du Brexit ? Voilà ce que vient d'en dire il y a vraiment quelques instants Emmanuel Macron.
Je veux dire simplement, en ami, en allié au Royaume-Uni, que c'est à lui seul de choisir son destin. La manière dont il sortira de l'Union européenne et les fondements de la relation future qu'il veut bâtir avec l'Europe. Nous nous préparons quant à nous activement à tous les scénarios, notamment celui d'une sortie sans accord le 31 octobre, si cela devait être in fine le scénario retenu. Ce n'est pas le choix de l'Union européenne, mais c'est notre responsabilité commune à l'égard de nos citoyens, de nos territoires, de nos entreprises, de nous y tenir prêts.
L'avenir du Royaume-Uni ne peut se trouver qu'en Europe, dit encore Emmanuel Macron. Quant à Boris Johnson, un tout petit peu plus positif que d'habitude, il veut un accord, dit-il, encouragé par sa rencontre avec Angela Merkel, un peu plus optimiste, je vous le disais, qu'Emmanuel Macron. Eh bien, tiens, Boris Johnson qui vient de s'exprimer, nous pouvons l'écouter.
Thank you very much, Monsieur le Président. I know that with energy and with creativity and application, we can find a way forward for all our
businesses. Je pense que nous trouverons un moyen pour avancer d'une façon qui serait adaptée pour nos entreprises et nos citoyens. Mais comme Emmanuel a dit, il est très important dans le monde politique. Quand il y a un référendum, il faut suivre les consignes données par les électeurs. C'est pourquoi nous devons le 31 octobre quitter l'Union européenne, quelle que soit la position, avec ou sans accord.
Voilà pour les propos des deux dirigeants français et britanniques dans la cour de l'Élysée. Ils s'expriment toujours en ce moment. On y reviendra évidemment dans les journaux de ce soir. C'est l'actualité toute chaude. Chaude aussi la météo, Jean-Pierre Hameau.
Les températures reprennent des couleurs aujourd'hui avec des maximales comprises entre 24 et 33 degrés du nord au sud. Au plus chaud de la journée, prévoyez 24 degrés à Brest et Cherbourg, 25 à Lille, 26 à Besançon, comptez 27 degrés à Paris ainsi qu'à Lyon et Grenoble, 28 à Nancy, Dijon et La Rochelle, 30 à Limoges et Toulouse, 31 à Bordeaux, 32 à Marseille et 33 degrés à Nîmes. Et pour les jours à venir, le mercure va continuer de grimper, les valeurs seront en conséquence estivales jusqu'à la fin du mois d'août, plaçant très certainement l'été 2019 à la troisième place des étés les plus chauds en France. Côté ciel, attention aux orages localement forts cet après-midi et ce soir dans le sud-est, mais aussi au-dessus de la montagne Corse. Et partout ailleurs, vous allez profiter d'un excellent ensoleillement.